Chapitre 8. Fragment. Parmi les papiers du docteur Robert Matheson, le médecin bien connu d'Ashley Street, qui mourut subitement d'apoplexie au commencement de 1892, on trouva une feuille couverte de notes au crayon. Ces notes étaient d'un latin abrégé et avaient évidemment été écrites très à la hâte. Le manuscrit n'a été déchiffré qu'avec de grandes difficultés, et jusqu'ici, certains mots ont échappé à l'effort de tous les experts. Au coin de droite est écrite la date, 25 juillet 1888. Ce qui suit est la traduction des dites notes. La science profiterait-elle de ces brèves observations au cas où elles pourraient être publiées? Je ne sais et j'en doute. Certes, je ne prendrai jamais la responsabilité de rendre public un seul mot de ce qui suit, non seulement à cause de ma parole librement donnée aux deux témoins, mais encore parce que ces détails sont trop répugnants. Il est probable que, tout bien considéré, et après avoir pesé le pour et le contre, je détruirai un jour ce papier ou le laisserai sous scellé à mon ami D, m'en rapportant à sa discrétion pour, à sa guise, en faire usage ou le brûler. Comme il convient, j'avais fait tout ce que prescrit la science pour n'être victime d'aucune délusion. Atterré au début, c'est à peine si la réflexion me resta, mais au bout d'une minute, je m'assurai que mon pouls était normal et que j'étais dans mon bon sens. Je repassai dans ma tête l'anatomie du pied et du bras, ainsi que les formules de quelques carbures, et alors je fixai mes regards sur ce qui était devant moi. Quoiqu'une nausée de révolte me vînt, et presque suffoqué par l'odeur de la corruption, je demeurai ferme, privilégié ou maudit, je ne sais, à voir ce qui gisait là, noir comme l'encre, et qui se transformait devant mes yeux. La peau, la chair, les muscles et les os, et la ferme structure du corps humain, tout ce que j'avais jugé jusque-là aussi invétéré, aussi permanent que le diamant, commença de fondre et de se dissoudre. Je savais que des agents extérieurs pouvaient ramener ce corps à ses éléments, mais j'eusse refusé de croire ce que je voyais maintenant, car il y avait là une force interne dont je ne savais rien et qui ordonnait la dissolution et la métamorphose. Ici se répéta devant moi tout l'effort dont l'homme est issu. Je vis la chose vaciller de sexe à sexe, se disjoindre et s'unifier à nouveau. Je vis le corps revenir aux bêtes dont il procède, et ce qui était au sommet des êtres descendre jusqu'au bas-fond, jusqu'aux abîmes. Mais le principe de la vie, qui crée l'organisme, demeurait stable cependant sous les transformations de la forme. La lumière de la pièce avait tourné aux ténèbres, mais non pas ces ténèbres de la nuit, quand les objets ne se perçoivent plus que de façon vague. Je pouvais tout voir encore distinctement. C'était comme la négation de la lumière. Les objets étaient présents à mes yeux, si je puis dire, sans intermédiaire. Et tellement que, s'il y avait eu un prisme dans la chambre, je n'en aurais pas distingué les couleurs. Je regardais toujours. Bientôt je ne vis plus rien qu'une substance pareille à de la gélatine. Et puis l'échelle fut remontée à nouveau. Ici, le manuscrit est illisible pendant plusieurs lignes. Un instant, je vis une forme obscurément figurée devant moi que je ne veux pas décrire. Mais le symbole en peut être retrouvé en d'anciennes statues et dans ces peintures qui ont survécu sous la lave, trop infâmes pour en dire plus long. Et l'indicible apparence, homme et bête, reprit forme humaine, et la mort vint enfin. Moi qui ai vu tout cela, non sans répugnance, je mets ici mon nom, déclarant vrai tout ce qui est écrit ci-dessus. Robert Matheson, médecine doctor. Telle est, Raymond, l'histoire de ce que je sais et de ce que j'ai vu. Le fardeau en était trop lourd pour moi seul, et je ne pouvais le partager qu'avec vous. Villiers, qui m'accompagnait à la fin, ne sait pas l'horrible secret de la forêt, et que ce que nous avons vu ensemble mourir jadis couché sur le tendre gazon, parmi les fleurs et tenant la petite Rachel par la main, appela et conjura ses compagnons, et sur cette terre même qui nous porte, donna la forme matérielle à ce que nous ne nommons que par allusions et figures. Je ne voudrais pas dire ces choses à Villiers, non plus que la ressemblance qui me frappa au cœur quand je vis le portrait et combla enfin la coupe d'angoisse. Le sens de tout cela, je l'ignore. Je sais que ce que j'ai vu mourir n'était pas Marie, et pourtant, à la fin de son agonie, ce sont les yeux de Marie qui m'ont regardé. Personne ne découvrira-t-il le dernier anneau de cette chaîne de mystère? Si quelqu'un le peut, c'est vous, Raymond, et si vous savez ce secret, il vous appartient de le dévoiler ou non, à votre choix. Je vous écris cette lettre à peine revenu en ville. J'ai passé ces deux derniers jours à la campagne. Peut-être devinerez-vous où. Tandis que l'étonnement de Londres était au comble, car Madame Beaumont, je vous l'ai dit, était bien connue, j'écrivis à mon ami le docteur Phillips, lui donnant un bref aperçu de ce qui s'était passé, et lui demandant le nom du village où avaient eu lieu les événements relatés par lui. Il me le donna sans hésiter, comme il le dit lui-même, le père et la mère de Rachel étant morts, et le reste de la famille partit rejoindre un oncle dans l'état de Washington. Les parents, me disait-il encore, étaient sûrement morts de la douleur que leur avait causée la mort de leur fille, et tout ce qui avait précédé cette mort. Le soir même du jour où je reçus la lettre de Phillips, j'étais à Caermen. À l'ombre des murs romains qu'ont ruinés et blanchis 1700 hivers, je contemplais la prairie où fut jadis consacré un temple au dieu des abîmes, et une maison aussi qui illuminait le soleil couchant, la maison où avait vécu Hélène. Je demeurai quelques jours à Caermen. Les gens, à ce qu'il me sembla, savaient peu de choses et en avaient deviné moins encore. Ceux à qui j'en parlais parurent surpris qu'un archéologue, je m'étais donné pour tel, s'occupât d'une tragédie villageoise, dont il ne donnait d'ailleurs qu'une version banale, et vous pensez bien que je ne leur appris rien de plus. La plupart de mon temps s'écoula dans la grande forêt qui domine le village et gravit la colline et redescend jusqu'à la vallée. Une vallée aussi délicieuse, Raymond, que celle que nous contemplâmes ensemble par une nuit d'été de votre terrasse. Bien des heures, j'ai erré dans le dédale de la forêt, foulant les allées ombreuses et fraîches même à midi, le long des broussailles ou m'arrêtant sous les chênes, tantôt couché sur l'herbe courte d'une clairière où montait jusqu'à moi, avec le vent, l'odeur faible et sauvage des églantines nouvelles, mêlée au lourd parfum de leurs aînés. Senteur composée qui rappelle la chambre des morts aux vapeurs d'encens et de corruption. Je m'assis sur les bancs de gazon à l'orée du bois, contemplant, par-dessus les fougères, la pompe et la théorie des digitales dans le soleil couchant, et par-delà les touffes épaisses des broussailles, les ronces nées du roc, les herbes d'eau humides et ténébreuses. Mais ces premières promenades évitaient une certaine partie du bois. Et hier seulement, je montai jusqu'au sommet de la colline, jusqu'à l'ancienne voie romaine qui traverse les hauteurs de la forêt. C'est là qu'elles avaient passé, Hélène et Rachel, sur la paisible chaussée et le vert gazon, entre les remblais d'argile rouge et la haie luisante des hêtres. Et c'est là que je suivis leurs pas, contemplant par éclaircie le bois déployé sur deux penchants, et la vaste plaine, et plus loin la mer jaunâtre, et la terre encore par-delà la mer. De l'autre côté, c'était la vallée et la rivière, les collines après les collines, comme des vagues après des vagues, les bois, les prairies et les champs de blé, les éclatantes maisons blanches, un mur de montagne, et dans le nord, les pics lointains et bleus. Et j'atteignis ainsi la place que je cherchais. La voie, en pente douce, formait une aire entourée de broussailles, et, se rétrécissant de nouveau, se perdait dans la distance et la buée bleue de l'ardeur estivale. Et c'est dans cette douce clairière d'été que Rachel jadis aborda la fille et quitta Dieu sait quoi. Je n'y demeurai pas longtemps. Dans une petite ville près de Kermen, il y a un muséum contenant surtout des débris romains retrouvés dans le voisinage en divers temps. Le lendemain de mon arrivée à Kermen, j'allai jusqu'à la ville en question pour visiter le musée. Après des pierres sculptées, des cercueils, des bagues, des monnaies, des fragments de mosaïques, on me montra un petit pilier carré de pierre blanche, récemment déterré dans le bois de Kermen. Et, comme je m'en assurais depuis, à la place même où s'élargit la voie romaine. Sur un des côtés de ce pilier, il y a une inscription dont j'ai pris note. Quelques lettres sont effacées, mais je ne pense pas qu'il y ait doute pour celle que j'ai suppléée. Voici l'inscription. Au grand dieu Nodens, le dieu de la grande profondeur ou de l'abîme, Flavius a élevé ce pilier en souvenir des noces qu'il a vues s'accomplir dans l'ombre. Le gardien du musée m'informa que les archéologues locaux étaient très embarrassés. Non par la difficulté de lire et de traduire l'inscription, mais quant aux conséquences ou rites qu'elle évoque. Et maintenant, mon cher Clark, passons à ce que vous dites d'Hélène Vaughan, que vous avez vue mourir dans des circonstances d'une horreur profonde et presque incroyable. Votre récit m'a intéressé, mais presque tout ce qu'il contenait, tout de même, je le connaissais d'avance. Je m'explique facilement l'étrange ressemblance remarquée par vous dans le portrait et sur la face même d'Hélène. C'est sa mère que vous aviez connue. Vous rappelez-vous cette paisible et chaude nuit où je vous parlais du monde qui est par-delà les apparences et du grand Pan? Vous rappelez-vous, Marie? C'est elle qui mit au monde Hélène Vaughan, 9 mois après cette nuit-là. Marie ne recouvra jamais la raison. Elle resta alitée telle que vous l'avez vue et mourut peu de temps après l'accouchement. Je m'imagine qu'elle me reconnut à la fin. J'étais debout à son chevet. Soudain, le regard d'autrefois revint à ses yeux. Elle frissonna, gémit et mourut. J'ai accompli une mauvaise œuvre la nuit où vous étiez là, Clark. J'ai brisé la porte de la maison de vie sans m'inquiéter de ce qui pouvait entrer ou sortir. Vous me dites alors, je m'en souviens, assez durement et assez justement aussi dans un sens, que j'avais détruit la raison d'un être humain par une folle expérience fondée sur une théorie absurde. Vous eûtes raison de me blâmer. Mais ma théorie n'était pas toute absurdité. Ce que j'avais dit que Marie verrait, elle le vit. Mais j'avais oublié que nul œil humain ne peut contempler cela impunément. Et j'oubliais aussi que, la maison de vie une fois ouverte, il peut y pénétrer ce pourquoi nous n'avons pas de nom. Et la chair humaine peut devenir alors le voile de l'inexprimable. J'ai joué avec des forces inconnues, et vous en savez l'issue. Hélène Vaughan a bien fait de s'attacher la corde et de mourir, quoique sa mort dût être horrible. Cette face noircie, cette forme transformée sur le lit, fondante et passant à vos yeux de la femme à l'homme, de l'homme à la bête, et de la bête à pire que la bête, tout cela dont vous fûtes témoin m'étonne à peine. Ce que contempla le docteur appelé par vous, je l'avais observé longtemps avant lui, car je compris mon œuvre à la naissance de l'enfant. Et elle avait 5 ans à peine que je la surpris, non pas une fois, mais 100, jouant avec tel compagnon que vous devinez. Ce fut pour moi une angoisse constante, et après quelques années, sentant que je ne la pouvais supporter davantage, j'envoyai Hélène Vaughan ailleurs. Vous savez maintenant ce qui effraya Trevor dans le bois. Le reste de cette histoire et tout ce qui a été découvert par votre ami, j'en ai été tenu au courant malgré moi jusqu'au dernier chapitre. Et maintenant, Hélène est avec ses compagnons. Telos. Note. Hélène Vaughan naquit le 5 août 1865 à Red House, Breconshire, et mourut le 25 juillet 1888 en sa maison dans une rue qui donne sur Piccadilly et qui est dénommée Ashley Street, le long de ce récit.